Je ne sais pas si on peut parler vraiment de dérive autoritaire uniquement à propos de la Constitution. Je crois que le régime autoritaire, enfin l'autoritarisme du président Dos Santos et puis le contrôle total qu'il a sur la scène politique est là depuis plusieurs années. Donc encore une fois, c'est plus une logique que tout à coup une dérive qui serait inscrite dans le texte fondamental de l'Angola. L'opposition politique en Angola est très faible. Ce manque d'équilibre s'est retrouvé aussi dans la commission qui a été chargée de préparer, d'élaborer les textes de la Constitution, de les soumettre à une consultation et ensuite de les préparer pour l'approbation par le Parlement. Donc tout a été dominé effectivement par le MPLA. L'UNITA n'est vraiment plus que l'ombre d'elle-même. Elle a eu un résultat catastrophique aux élections de septembre 2008 et donc elle se retrouve dans une position qui l'oblige probablement ou qui l'a contraint à faire un peu des coups d'éclat comme celui-là, c'est-à-dire refuser de participer au vote comme une manière symbolique de dire qu'elle n'est pas d'accord avec ça, mais elle est réduite à pas grand-chose, cette opposition.
Et qu'est-ce qui manque à l'opposition angolaise? C'est un véritable leader?
Alors, d'une part, je crois que ça, c'est effectivement le leader actuel de l'UNITA, Isaias Samakuva, est pas mal contesté. Historiquement aussi, je dirais, c'est-à-dire que depuis qu'il existe véritablement un certain pluralisme politique à partir du début des années 90, l'opposition angolaise a été très morcelée. Ça avait fait sa faiblesse aux premières élections de 92. Actuellement, elle est un petit peu moins morcelée, mais encore, il n'y a pas vraiment de front démocratique uni pour s'opposer au MPLA, ce dont le MPLA sait bien se servir aussi pour asseoir encore plus son pouvoir.
Je voulais savoir quelle était la popularité du président Dos Santos auprès des Angolais. Et est-ce que ce vote de la Constitution ne va pas entamer un peu son crédit ?
C'est difficile à dire. Enfin, effectivement, je crois qu'aussi bien le MPLA, Dos Santos, ont une certaine légitimité auprès de la population, qu'il est très difficile d'évaluer. En revanche, le régime qui a été choisi par la Constitution, ce fait-là montre qu'il y a quand même une certaine réticence de la part de José Dos Santos d'affronter en quelque sorte le verdict populaire. On ne peut pas savoir effectivement si ça va affecter le soutien dont il peut éventuellement encore jouir auprès de la population. C'est assez difficile. Il y a quand même un matraquage médiatique assez important autour de la figure du président. La création, par exemple, il y a une bonne dizaine d'années de la Fondation Eduardo Dos Santos, qui était une fondation de droit privé, mais qui, grâce à de l'argent perçu sur notamment les bénéfices des compagnies pétrolières, a remplacé en quelque sorte l'État dans certains services comme l'éducation, la construction de routes ou d'écoles. Ce genre de choses, c'est des choses qui ont participé comme ça à une espèce de glorification du président. Le régime, je dirais, a toujours su, depuis l'indépendance, en fait, manier assez bien la carotte et le bâton, utiliser la rente pétrolière pour, par un vaste système de redistribution clientéliste, coopter quand même un certain nombre de personnes au sein de la société civile, donner aussi l'espoir à d'autres d'être éventuellement cooptés ou en tout cas de recevoir des dividendes de la rente pétrolière, ce qui fait que du coup, à la fois on a peur de la répression si on se révolte, mais en plus on peut toujours nourrir l'espoir éventuellement de voir sa vie s'améliorer grâce à cette redistribution-là.
Cette nouvelle constitution stipule entre autres que toutes les terres désormais appartiennent à l'État, donc l'État pourra décider qui a le droit de les utiliser. Est-ce que ce point-là n'est pas dangereux quand on sait qu'évidemment l'Angola a des ressources en hydrocarbures particulièrement importantes?
Effectivement, la question des terres va être une des questions chaudes des prochaines années. Ça l'est déjà parce que dans les régions rurales, notamment dans le haut plateau du centre de l'Angola, au nord de l'Angola, qui sont des régions extrêmement fertiles, la question de l'accès à la terre pour les paysans va être quelque chose de très chaud. Ça risque de nourrir comme ça certaines luttes au niveau local. Ça risque d'être un sujet chaud.